Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invitée aujourd'hui, elle était avec le président de la République au Tchad à Noël. Elle a passé le nouvel an avec les forces françaises sur la base aérienne projetée en Jordanie. C'est de là que décollent les avions de chasse qui combattent Daesh. Elle était encore aux côtés d'Emmanuel Macron ce jeudi à Toulouse pour ses vœux aux armées. Et c'est elle que nous voulions entendre alors que nos soldats sont engagés au Levant, au Sahel, mais aussi sur le front numérique de la guerre cyber. Et plus près de nous, les patrouilles de l'opération Sentinelle font désormais partie de notre quotidien dans les rues, dans les lieux publics, les gares ou les aéroports. Revue des troupes jusqu'à 13h avec la ministre des Armées, Florence Parly, qui s'est installée à la table de questions politiques. Vos questions, vos remarques sur l'appli France Inter ou sur Twitter, le hashtag #QuestionPol.
France Inter, questions politiques, Ali Badou.
Bonjour Florence Parly.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger les casques bleus de questions politiques. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour chef.
Habillée en kaki.
Oui, ça n'a pas été calculé, mais ça va être un acte manqué.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
C'est plutôt la Légion étrangère. Non, c'est, ben ça, voilà. c'est ça. Non, c'est
je ne sais pas, c'est à Florence Parly de le confirmer.
C'est tout à fait Terre de France.
Elle fera, Karine, votre portrait, Florence Parly, dans quelques minutes. Partons de l'actualité française avant de parler évidemment de l'armée. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes qui se poursuit, une 10e semaine de mobilisation avec des villes comme à Toulouse où il y a plus de gens aujourd'hui qu'il n'y en avait les semaines précédentes, et tout ça malgré le lancement du grand débat?
Je crois que ces manifestations ont d'abord comme caractéristique de se dérouler de façon, en tout cas pour le samedi de cette semaine, plus pacifique. Et je m'en félicite parce que nous avons assisté pendant des semaines et des semaines à des violences absolument inacceptables. Et en particulier, vous me permettrez d'y faire référence, le saccage de l'Arc de Triomphe le 1er décembre qui a été vraiment, je dirais, une étape franchie dans la violence et dans la symbolique. Ce mouvement des Gilets jaunes continue à s'exprimer de façon plus pacifique et je pense qu'il a vocation à l'être de plus en plus dans la mesure où le grand débat, lui, démarre. Le président de la République a conduit deux longs échanges avec des maires dans deux régions différentes cette semaine. Et puis surtout, ce sont des réunions qui sont en train de s'organiser, qui ont commencé d'être organisées. Plus de 500 sont programmées. Et mon souhait, et le souhait de l'ensemble des républicains, je crois, c'est, républicains au sens ceux qui aiment la République, naturellement, c'est que ce débat puisse réunir le plus grand nombre de Français possible, parce qu'il est nécessaire.
Mais l'effet grand débat n'a pas fonctionné, là, ce samedi. On pouvait imaginer une recrudescence, et puis finalement, il y a toujours autant de manifestants. L'effet positif que j'imagine le gouvernement attendait n'a pas eu lieu.
Ce grand débat, il est en train de démarrer, il va se dérouler sur 2 mois. Donc il faudra naturellement suivre la manière dont ceux qui ont l'intention d'y participer vont le faire. J'ai noté que environ un tiers des Français ont l'intention d'y participer.
Vous trouvez
moi
que
j'appelle
c'est élevé,
moi je trouve que c'est tout à fait considérable et c'est donc la preuve que ce grand débat répond à un besoin et à une attente. Et il me semble que plus ce nombre sera élevé, plus l'expression démocratique et citoyenne en sera renforcée et plus surtout les solutions que nous souhaitons collectivement apporter à un certain nombre de problèmes qui sont ceux que le grand débat va traiter. Je pense aux problèmes de la citoyenneté, de nos
oui,
services publics. Bref, on va certainement y revenir. Les problèmes de fiscalité, de dépenses publiques. Tous ces sujets-là sont des sujets d'intérêt majeur et qui, je crois, ont été aussi à la source de la colère qu'ont exprimé les Gilets jaunes au début.
Mais
Françoise,
il y a quand même quelque chose d'incongru, c'est que chaque samedi, à peu près 80 000 forces de l'ordre sont mobilisées pour à peu près 84 000 manifestants. Donc quand vous regardez le rapport de force, c'est complètement excessif. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'habituer à une situation absolument exceptionnelle ?
La difficulté, vous l'avez noté, c'est que au-delà des Gilets jaunes qui expriment des revendications sincères et de façon pacifique, se sont invités à ces manifestations des gens dont l'objectif n'est nullement de participer à un grand débat citoyen, n'est nullement de faire progresser la démocratie, n'est nullement de reconnaître la République, et plutôt de faire évoluer notre régime vers quelque chose qui n'a rien de démocratique. Et donc les violences sont là. Et donc La mission des forces de sécurité intérieure, c'est de préserver l'ordre public, d'éviter qu'il y ait des blessés, ou pire encore, d'éviter qu'il y ait des dégâts, des dépradations. Et c'est la raison pour laquelle les forces de sécurité intérieure ont été si fortement mobilisées depuis des semaines et des semaines.
Mais il y a la polémique, Florence Parly, justement, sur le nombre de blessés parmi les manifestants et blessés par les forces de l'ordre, qu'ils soient policiers ou gendarmes, et des blessures souvent graves causées par ce qu'on appelle plus les flashballs, mais les LBD. Est-ce qu'il y a un usage disproportionné de la force parmi les forces de l'ordre ?
Des blessés, il y en a eu beaucoup. Et il y en a eu de part et d'autre. Et pour ma part, j'ai malheureusement visité un certain nombre de blessés dans les hôpitaux militaires à la suite des policiers et des gendarmes.
Mais 2000 je sais que naturellement, du côté des manifestants, 1000 oui, du côté des forces de l'ordre.
Et je sais que naturellement, il y a eu aussi des blessés du côté des manifestants. Personne ne peut se satisfaire de cette situation. Et quant à la polémique qui s'est développée au cours des derniers jours sur un usage qui aurait été disproportionné de ces armes, eh bien, je crois que ce qui est important, c'est que les principes soient respectés. Il y a des règles d'emploi de ces armes.
Qui visiblement ne sont pas toujours respectées.
Comme pour les policiers et les gendarmes, comme pour les militaires. Elles sont différentes, mais il y a des règles d'emploi.
Est-ce que ce ne sont pas des armes plutôt pour les militaires?
Je termine. Et donc, ceci doit être respecté. Et si ça ne l'était pas, ou s'il y avait une suspicion que ça ne l'ait pas été, alors il faut que des enquêtes soient menées. Et c'est ce qui est le cas, puisqu'il y a plus de 80 enquêtes en cours. Et il faudra que ces enquêtes disent si ces armes ont été utilisées ou pas dans le cadre qui était prévu.
De ce que vous connaissez, vous, en par fonction, est-ce que vous considérez que ce sont des armes qui doivent être affectées aux militaires ou alors aux policiers ?
Ce ne sont pas des armes qui doivent être affectées aux militaires. Les militaires détiennent des armes qui sont des armes létales. Des armes létales, ce sont des armes qui sont faites pour tuer. Oui. Bien. Le maintien de l'ordre, c'est tout autre chose. Il ne s'agit pas de tuer des manifestants. Il s'agit de préserver l'ordre public, d'éviter, comme je l'ai dit il y a un instant, qu'il y ait de part et d'autre de la violence, des blessés, éviter des dépradations et maintenir l'ordre républicain. Donc, il est normal que les policiers et les gendarmes ne soient pas équipés des mêmes armes que des militaires.
Mais vous
et
savez,
il est normal que les règles d'emploi ne soient pas les mêmes.
Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a critiqué et depuis
il
demande l'interdiction et il critique l'utilisation de ce type d'armes-là pour le maintien de l'ordre.
Mais il a raison ou pas?
Le défenseur des droits a tous les droits, y compris celui de s'exprimer sur ces sujets-là. Je pense que cette question est beaucoup plus du ressort du ministre de l'Intérieur que de moi-même. Et s'il doit y avoir un débat sur l'utilisation de ces armes, pourquoi pas? Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, en tout cas c'est dans ce cadre que les enquêtes se déroulent, c'est de s'assurer que, au regard des règles qui étaient posées, ces armes ont été utilisées conformément.
Karine, puis Françoise Fressoz.
Plus globalement, ça fait donc déjà 10 semaines que chaque samedi il y a des manifestations autour de entre 60 et 150 000 manifestants. Combien de temps on peut sortir 80 000 forces de l'ordre en France pour surveiller ces manifestations qui parfois effectivement peuvent être extrêmement violentes? C'est moins le cas en ce moment. Combien de temps on peut tenir à ce rythme-là?
Florence Parly.
Je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. Nul ne détient la vérité. La seule chose que je peux noter pour ma part, c'est que chaque semaine, ces policiers et ces gendarmes sont courageusement au rendez-vous et qu'il n'y a pas le moindre signe de faiblissement de leur engagement.
Il n'y a pas d'alerte sur l'état d'esprit de ces troupes qui finalement sacrifient tout leur samedi, sont mobilisés, ne savent pas s'ils vont pas se faire attaquer.
Je souligne des faits. Moi, je ne suis pas comme Christophe Castaner ou Laurent Nunez au contact quotidien des policiers et des gendarmes. Vous m'interrogeriez sur le moral des militaires. Je pourrais sans doute vous répondre de façon plus documentée. Mais ce que je constate, c'est que ces policiers et ces gendarmes sont au rendez-vous et continuent d'assumer leurs responsabilités, leurs missions avec beaucoup de professionnalisme.
Nathalie Saint-Cricq.
Comment est-ce que vous qualifieriez l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, c'est-à-dire d'un certain nombre de partis vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont eu tendance à mettre de l'huile sur le feu?
Je pense que Jean-Luc Mélenchon, comme certains l'ont dit avant moi, fait le travail sans doute au profit du Rassemblement National et de Marine Le Pen. En tout cas, les sondages récents, les plus récents le prouvent. Quant à Madame Le Pen, je pense qu'elle est restée plutôt silencieuse, plutôt en retrait, et que cette attitude lui a manifestement profité et profitera certainement au Rassemblement
National. Est-ce que vous condamnez cette force-là, en voyant ce qui se passe, comme disaient Françoise et Karine, c'est-à-dire tous les samedis, est-ce que vous considérez qu'ils ont une part de responsabilité en attisant une forme de haine, une forme de... voilà.
Je pense que les responsabilités, elles sont, comment dire, il y a plusieurs formes de responsabilité. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, à examiner notre conscience. Je pense que les responsables politiques, au premier chef, ceux qui n'ont pas défendu leurs propres collègues, qui ont été pourtant soumis à des violences inédites, à des menaces de mort pour certains. Moi, je suis, à titre personnel, très choquée que des députés élus de la nation n'aient pas jugé utile de se joindre à la solidarité que ce type de comportement aurait nécessité. Nous avons aussi collectivement, et je n'ai pas de conseils à donner aux médias d'une façon générale, mais je pense que la part qui a été accordée dans les médias à un mouvement qui était un mouvement réel, loin de moi l'idée de considérer que ce mouvement n'avait pas à être traité par les médias, c'est pas ça la question. La question c'est...
Vous trouvez qu'il y en a eu trop,
la
clair,
part,
en simple.
Et comment ces événements ont été traités. Donc je pense que lorsque... un mouvement
de cette
nature.
Vous ne parlez pas de la responsabilité du gouvernement et du président de la République.
Je veux dire simplement que la responsabilité...
Soyez juste et...
justement, vous...
vous faites un état des lieux complet,
je
Florence
Parly.
Tout le monde est responsable, sauf nous.
Et je voulais le compléter, naturellement. Le gouvernement est en responsabilité, et comment, en étant à la responsabilité et à la tête de ce pays, pour le gouverner, comment pourrait-il échapper lui-même à une
bien
forme
sûr.
D'introspection.
Et le président de la République
donc,
également.
Et donc,
il doit faire son introspection, Emmanuel Macron.
Mais, excusez-moi, mais nous l'avons faite, me semble-t-il, puisque le président de la République a été amené à s'exprimer à de nombreuses, enfin plusieurs reprises, de façon très solennelle, au mois de décembre, puis dans le cadre de ses vœux, puis désormais dans le cadre de sa lettre adressée aux Français.
Pour dire la plupart du temps qu'il faut garder le cap, hein, quand même.
Et pour dire qu'il faut être à l'écoute. Et que ce mouvement ne peut pas être considéré d'un revers de la main, et que ce grand débat, il doit être traité avec toute l'attention et tout le sérieux qui lui est dû. Je pense qu'il ne faut pas, là non plus, tronquer les choses. Et le gouvernement, il sera très attentif.
Est-ce Françoise. Que vous diriez aujourd'hui qu'au fond le mouvement évolue et que ceux qui manifestent encore, c'est au fond des manifestations antidémocratiques ?
C'est la crainte que l'on peut avoir. C'est la crainte que l'on peut avoir, et c'est pour cela que, je le disais tout à l'heure, il est important que tous ceux qui ont des revendications à porter parce que souffrant de situations extrêmement difficiles dans notre pays puissent le faire, et puissent le faire de façon pacifiée, apaisée. Il y a désormais un cadre pour cela. Pour le reste, je ne doute pas que, comme je vous l'ai dit, ceux qui sont... les attiseurs de violence qui produisent ces violences dans les rues chaque samedi, je ne pense pas qu'ils s'inviteront au grand débat. Par conséquent, ils ont certainement intérêt à ce que ces manifestations durent le plus longtemps possible. Mais qu'y a-t-il derrière ? C'est la démocratie qui est en cause. Parce que l'on s'insurge contre le fait que la démocratie participative n'est pas assez efficace, c'est une chose, mais à condition de ne pas mettre en cause la démocratie elle-même. Et j'y reviens, les actes qui ont été commis au cours de ces semaines sont des actes d'une gravité inqualifiable.
Ça, on l'a entendu.
Et parfois, tout cela s'est passé dans une forme de passivité ou d'indulgence qui est inquiétante. Donc je crois qu'il est temps pour notre pays de reprendre le fil du dialogue, de la concorde, de la bienveillance, de l'écoute. Et ça, c'est l'objet même du grand débat. Et je souhaite du fond du cœur que ce grand débat permette de dégager des solutions qui puissent être largement partagé par nos concitoyens.
Une question avant votre portrait, c'est le journaliste Jean-Dominique Merchet qui l'écrivait. Il disait « Lorsque tout va mal, et on peut considérer que tout va mal, l'armée reste le dernier recours, tous au garde à vous et obligés d'applaudir. En ces temps de gilets jaunes, les militaires sont le public rêvé pour Emmanuel Macron. C'est pour ça que le président de la République a annulé tous ses vœux, sauf la cérémonie des vœux aux armées. En l'occurrence, on peut se rassurer quand on est président de la République, quand on va rencontrer les soldats et les militaires ?»
Le président de la République a pris l'habitude, dès son élection, d'aller régulièrement au contact des militaires. Nous avons passé le Noël 2017 à Niamey, au Niger. Nous avons passé le Noël 2018 au Tchad. Et chaque fois, le président de la République présente ses vœux aux armées. Je crois que c'est une grande tradition. Et il n'y a pas manqué cette année non plus.
Mais avouez quand même que c'est amusant parce que quand on est face à des militaires, et en l'occurrence quand on est le chef des armées, tout le monde est au garde à vous, obligé d'applaudir.
Mais je pense que l'adjectif amusant n'est pas nécessairement le bon, parce que les militaires sont engagés sur bon nombre de théâtres d'opérations extérieures. Ils font un travail formidable. Ils sont engagés au service des Français. Et je pense que c'est la moindre des choses que nous leur exprimions régulièrement notre reconnaissance et notre gratitude.
La ministre des Armées, Florence Parly, est l'invitée de Questions politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, Questions politiques.
Votre portrait signé Karine Bécard.
Florence Parly, vous avez donc été à deux reprises déjà nommée ministre, mais c'était à chaque fois pour éteindre un début d'incendie politique. Je m'explique. Vous êtes d'abord devenue secrétaire d'État au budget quand il a fallu remplacer DSK, Dominique Strauss-Kahn, empêtré dans l'affaire de l'AMNEF il y a maintenant 19 ans de cela. Et puis à nouveau, même contexte, vous avez été propulsée au ministère des Armées quand Sylvie Goulard s'est retrouvée et poussée vers la sortie, embourbée elle aussi dans une affaire, celle au modem des assistants parlementaires. Alors trop discrète peut-être, Florence Parly, pour que l'on pense à vous du premier coup, trop en retrait à la manière des hauts fonctionnaires. Vous avez décidé de défendre des idées exactement comme votre mère, en coulisses, en jouant des rôles de conseillère. Elle a notamment dirigé le cabinet de Claude Allègre, ministre de l'Éducation, quand vous étiez, vous, à Matignon, attaché à celui de Lionel Jospin. À l'époque, vous aviez 34 ans seulement, en carte EPS, certes, mais la dureté et l'âpreté de la vie politique ne vous a jamais vraiment attiré.
Servir l'État, c'est être au service de la collectivité, servir l'intérêt général et donc essayer de faire en sorte que les gens qui vivent dans ce pays vivent plutôt mieux.
Et en réalité, même quand vous avez filé dans le privé, c'était là aussi, comme toujours Florence Parly, pour servir votre pays. Vous y avez touché, c'est vrai, de confortables émoluments, mais c'est délibérément que vous avez choisi de rejoindre Air France, puis la SNCF. Vous aviez même été annoncé pour diriger la RATP. Or, assez bizarrement finalement, ce ne sont pas les transports qui vous ont été proposés, Florence Parly, non, ce sont les armées. Vous auriez pu refuser, mais vous êtes plutôt du genre, vous, à vous accrocher, alors qu'Emmanuel Macron, au début, ne vous a pas franchement aidé, en commençant notamment par pousser à la démission, personne n'a oublié, le général Levilliers.
C'est le choix du général Levilliers, et je le respecte. Et je souhaite rendre hommage à l'action du général Levilliers.
20 juillet 2017, ambiance un peu tendue à l'Assemblée. Pour vous qui, à 54 ans, veniez d'accepter d'être ministre des Armées. Ministre des Armées et non ministre de la Défense. Pardonnez-moi Florence Parly, mais les mots ont un sens. Cela signifie que le président Macron explicitement vous a confié toute la gestion humaine et matérielle, mais il vous a retiré, en fait, il a gardé ce qui fait le sel de votre ministère, la stratégie militaire.
Florence Parly.
Alors je vais réagir peut-être à ce portrait. D'abord, pour dire que oui, le sens de mon engagement, ça a toujours été, au fond, l'intérêt général. Mon fil rouge, ça a toujours été de servir. Je l'ai fait d'abord au service de l'État et puis au service de grandes politiques de transport dans le cadre d'entreprises privées ou publiques. Et c'est quelque chose qui continue de m'animer. Et donc, lorsqu'il m'a été proposé de rejoindre le gouvernement d'Édouard Philippe pour diriger le ministère des Armées, j'ai accepté en pensant que je pouvais peut-être mettre au service de mon pays l'expérience que j'avais acquise au cours de ces années, soit au service de l'État, soit au service de très grandes organisations. Alors le ministère des Armées est une très grande organisation, 260 000 personnes, un ministère qui est à la fois tourné sur l'humain, compte tenu de cette richesse humaine, mais aussi sur des questions industrielle, économique, puisqu'il y a toute une base industrielle et technologique de défense qui alimente, nourrit, crée des emplois au sein de notre pays.
Donc vous êtes une DRH, en fait.
Et donc j'ai pensé que c'était une expérience acquise qui pouvait m'être utile, certes dans un domaine qui m'était, vous l'avez souligné, largement étranger. Quant aux commentaires sur la répartition des tâches entre le président de la République et le ministre, la Ve République est extrêmement claire. Le président de la République est le chef des armées. Voilà, donc tout est dit. Il a un ministre, et il a un ministre qui le conseille, gère pour lui un ministère des armées, qui est un des ministères régaliens très importants de notre gouvernement.
Françoise.
Est-ce que vous estimez avoir pacifié les relations difficiles au début, puisqu'on a eu la démission effectivement du général de Villiers et cette espèce d'inquiétude de l'armée par rapport au président de la République? Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez avoir pacifié la grande muette?
Moi, je considère que tout a été fait en ce sens, puisque la loi de programmation militaire que nous avons présentée et fait voter au Parlement donne à nos armées les moyens non seulement de reconstituer tout le potentiel qu'elles avaient perdu du fait d'années de privation et de baisse de moyens budgétaires qui ne s'était pas démenti depuis la fin de la guerre froide, et puis le fait que des engagements très importants se sont additionnés les uns aux autres au fil des temps sur des théâtres d'opérations extérieures. Donc nos armées étaient prises dans un effet de ciseau, si je puis dire, entre moins de moyens et plus d'interventions. Et donc cette loi de programmation militaire, elle répond à cette question. Elle programme près de 300 milliards d'euros de crédits sur les années 19 à 25. Et d'ailleurs, le président de la République n'a pas attendu que cette loi de programmation militaire soit votée pour donner des signaux très forts à nos armées, puisque le budget 2017 a été exécuté à l'euro près. Il n'y a donc pas eu, in fine, d'annulation comme on nous en avait accusé, en tout cas on nous en avait fait le procès à mon arrivée.
Mais dans le contexte des Gilets jaunes, vous sanctuarisez cette programmation militaire?
Je termine. Et d'autre part, le budget 2018 est lui-même un budget, avant même la nouvelle loi de programmation militaire, qui est en très forte progression d'un milliard 800 millions d'euros. Et pour rebondir sur votre question, le président de la République s'est exprimé à deux reprises pour dire que, en effet, les moyens prévus par la loi de programmation militaire seront des moyens qui seront entièrement respectés.
Françoise Fressoze.
Et vous, vous portez garde, parce que vous êtes occupé des affaires budgétaires, vous savez à quel point les tensions peuvent monter autour de la loi de programmation militaire, notamment quand le gouvernement a fait 10 milliards de dépenses sociales pour les Gilets jaunes. Il va y avoir pour l'an prochain une grande bataille budgétaire et peut-être qu'on va se tourner vers vous en disant « Mais attendez, vous êtes super bien, vous avez presque 5% d'augmentation des crédits, vous pouvez peut-être en rendre un peu. Ça, vous êtes sûr ?»
Et puis on vous le rendra plus tard.
Que vous ne les rendrez pas, ça.
Alors c'est pour cela qu'il faut être doublement vigilant.
Ah.
Vigilant d'abord
sur
la bonne utilisation de ces moyens, parce qu'au moment où notre pays, qui reste confronté à une situation budgétaire tendue, nous sommes passés en dessous de la barre des 3% l'année dernière, mais c'est évidemment un combat plus général.
C'était l'année dernière et ce ne sera plus le cas cette année.
Mais nous avons une trajectoire des finances publiques qui doit permettre de rester durablement en dessous des 3%. Donc, dans un contexte où les moyens budgétaires sont comptés, il est tout à fait normal que les moyens très importants qui sont consentis pour notre défense soient utilisés à bon escient.
Mais c'est quoi,
ça,
bon escient?
C'est la première.
Excusez-moi, je comprends rien. Enfin, je comprends. À bon escient.
Je prends un exemple. Nous sommes le premier investisseur de l'État, avec près de 19 milliards de crédits d'investissement chaque année. Ces 19 milliards d'investissements, pour une partie, sont consacrés aux investissements pour les équipements militaires. Hein? Bien. Lorsqu'il y a des dérives de programme, lorsqu'un programme qui a été commandé pour coûter 2 milliards, non seulement n'est pas au rendez-vous en termes de calendrier, mais n'est pas au rendez-vous également du point de vue de son coût, qu'il y a une dérive budgétaire, cela n'est pas normal. Voilà le type de dérive que je ne veux plus voir. Et c'est la raison pour laquelle l'un de mes chantiers prioritaires concerne la gestion des grands programmes d'équipement militaire pour que nous soyons assurés qu'il n'y ait ni dérive sur les coûts, ni dérive sur les calendriers. C'est un exemple.
Et il y a aussi évidemment la gestion des ressources humaines, même si ça ne porte pas ce nom, au sein du ministère des Armées. Un exemple, et tous les Français connaissent maintenant les patrouilles des soldats de Sentinelle dans leurs rues. Est-ce que c'est la mission principale de l'armée de faire souvent de la protection statique dans des lieux publics ou devant des lieux publics? Est-ce qu'on doit garder 10 000 hommes mobilisés pour la protection de ces lieux publics, ou est-ce qu'il faut employer les ressources autrement?
Alors, il faut se souvenir des conditions dans lesquelles les militaires ont été appelés à renforcer les forces de sécurité intérieure. C'était au moment
des attentats terroristes
de 2015. Donc, à ce moment-là, il a été jugé tout à fait nécessaire que les policiers et les gendarmes puissent être affectés très directement à un certain nombre de missions, et que les militaires puissent, dans la limite de leurs prérogatives, qui encore une fois ne sont pas des prérogatives d'ordre public, puissent contribuer à cette lutte contre le terrorisme sur le territoire national. Donc, des militaires ont été déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Et vous mentionniez les gardes statiques. Tout ça, maintenant, c'est, si je puis dire, du passé, puisque nous avons complètement revu la façon dont nous utilisons les militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle, puisque l'objectif, c'est que ces patrouilles Sentinelle soient les plus mobiles et les plus imprédictibles possibles.
Imprédictibles.
Imprédictible possible, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas passer tous les jours exactement au même endroit et à la même heure, parce que c'est important pour l'efficacité de leur action, puis c'est aussi important pour leur propre sécurité.
Mais ça a vocation à durer, ou est-ce que ça doit être le relais doit être pris par les forces de l'ordre? C'est une vraie question qui se pose au sein des troupes, et même ça affecte le moral des troupes.
Et alors, tant que la menace terroriste reste élevée, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien l'opération Sentinelle continuera de jouer tout son rôle. Alors, au début, vous avez raison de dire que cette opération Sentinelle, elle venait en plus de toutes les opérations que nos armées devaient conduire. Elle n'avait donc pas été, en quelque sorte, planifiée dans les emplois du temps. Cela a donc été extrêmement exigeant que d'assumer par surcroît cette mission. Aujourd'hui, évidemment, les armées se sont organisées. D'abord, elles ont recruté. L'armée de terre a recruté 11 000 hommes. Et par ailleurs, nous avons planifié ces missions Sentinelle dans le cadre des activités habituelles des militaires, au même titre que l'entraînement, la préparation, la projection sur des théâtres extérieurs ou bien évidemment les permissions.
Et à propos Nathalie justement de la fonction des militaires, le service national universel va être d'abord testé puis va devenir obligatoire. Quel sera exactement le rôle des militaires? On n'a pas très bien compris, parce qu'il y a des stages de cohésion, il y a un peu de tout, il y a l'initiation à l'environnement. C'est quoi le rôle des militaires de ce SNU à venir?
Laurence Parly.
Alors, ce SNU, comme chacun le sait désormais, n'est pas un service militaire.
Non,
mais c'est un service national universel. Je le répète parce qu'il y a parfois, de moins en moins certes, des confusions. C'est un service national qui a vocation à créer du lien citoyen. Les militaires, évidemment, auront un rôle à jouer.
Lequel?
Lequel?
Le rôle des militaires devra être de former un certain nombre de formateurs qui vont encadrer ces jeunes.
Alors, c'est ça qu'on comprend pas très bien. Oui. Pourquoi, si ce n'est pas un service militaire, on utilise les militaires?
Pardon?
Pourquoi, si ce n'est pas un service militaire, on utilise les militaires pour former?
Excellente question, Françoise.
Parce qu'aujourd'hui, nous avons une journée de défense et de citoyenneté, donc, qui ne dure qu'une journée. Le service national universel sera, lui, plus long. Et dans le cadre de cette journée, les militaires sont amenés à intervenir pour expliquer un certain nombre de choses, ce qu'est la défense nationale, ce que c'est que
d'être... Ce n'est pas des conférenciers dans le cadre du SNU.
Ce sont des personnes, il y aura différents modules dans le SNU, il y aura des modules extrêmement pratiques, vous avez raison, des modules qui consisteront à se former pour apporter les gestes de premier secours lorsque les personnes
sont
lancées. Pas au maniement des armes, ça je ne crois pas que ce soit prévu.
Les militaires ne voulaient pas avoir à s'occuper de ça.
Mais par ailleurs, il y aura en effet des modules pendant lesquels seront expliqués ce qu'est
la nation,
ce qu'est la souveraineté, ce qu'est notre défense.
Mais
ce
ça, c'est le rôle de l'école. Alors ce que je ne comprends pas, Florence Parly...
Il y aura
Parly...
donc des aspects pratiques et des aspects plus théorique.
Alors les aspects très pratiques, est-ce que par exemple tous ceux qui feront le service national universel iront passer une semaine, un mois, trois mois dans une caserne par exemple ?
Nous le verrons dans le cas de l'expérimentation.
Puisqu'une première expérimentation... C'est pas si clair.
Mais si on fait des expérimentations, pardonnez-moi, Libadou, c'est aussi pour tester un certain nombre de choses. Donc, on connaît le cadre du service national universel, il a été clairement tracé. Une première phase qui est une phase obligatoire, plutôt autour de 16 ans,
et une deuxième phase d'engagement. Clarté, Florence Parly, et je le dis avec le sourire. Est-ce que vous allez, parmi ces expérimentations, expérimenter les dortoirs mixtes, par exemple, dans les casernes?
C'est une vraie question. Ça me paraît tout à fait hors de propos. Je pense qu'il y aura des dortoirs, mais pas mixtes.
Il n'y aura pas de dortoirs mixtes.
Je ne pense pas qu'il y aura des dortoirs
mixtes. Au 21e siècle, Florence Parly.
Écoutez, lorsque les enfants sont encore mineurs, je pense que il est de la responsabilité de l'État au sens large d'éviter
Ils ne seront pas tous, en l'occurrence, ceux qui participeront au service national universel.
Il y a deux phases, je l'ai indiqué. Il y a une phase,
c'est pour ça que c'est pas clair.
Il y a une première phase qui est une phase obligatoire pendant laquelle aura lieu cette période du vivre ensemble où un certain nombre de jeunes seront pendant une quinzaine de jours ensemble et donc partageront des dortoirs, mais je vérifierai auprès de Gabriel Attal dès que je sortirai de ce studio. Il m'étonnerait beaucoup qu'il soit envisagé.
Le mouvement de
mai
68 est né de ce problème-là d'ailleurs, en tout cas, et de la mixité dans les dortoirs. Deux questions, et puis j'aimerais qu'on arrive aussi à l'actualité. Alors, l'actualité la plus brûlante, une dépêche vient de tomber en l'occurrence. 4 à 6 casques bleus tchadiens ont été tués par des terroristes dans le Nord Mali. On vient de l'apprendre pour le coup dans une attaque terroriste complexe d'un camp de la mission de l'ONU dans le nord du Mali. On voulait justement vous interroger sur l'opération Barkhane, l'opération qui est menée par les soldats français dans le Sahel et qui mobilise plus de 4500 soldats, qui mobilise des ressources considérables pour lutter contre les réseaux djihadistes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer l'avenir de cette mission-là? Jusqu'à quand les soldats français seront dans le Sahel à lutter contre les djihadistes? Est-ce que vous pouvez avoir un calendrier en tête ou pas du tout?
Tant que cela sera nécessaire, ce qui ne veut pas dire que nous ayons vocation à être éternels. Mais la vocation de cette force Barkhane, c'est de lutter contre le terrorisme, et des groupes djihadistes nombreux sont dans cette zone du Sahel, menacent évidemment les régions en question, mais aussi la sécurité des Européens et des Français. Et puis, sa deuxième mission, et peut-être celle qui a vocation à être de plus en plus importante au fil du temps, c'est d'être en appui des forces armées locales, des 5 pays partenaires du G5 Sahel, la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et au-delà de l'appui que nous apportons en termes de formation, d'entraînement et également d'accompagnement de ces forces armées nationales dans un certain nombre d'opérations, je note que les derniers succès qui datent d'il y a quelques jours encore au Mali ont tous été des opérations menées conjointement par Barkhane et par les forces armées maliennes et qui ont permis de mettre hors de combat des dizaines de terroristes. Donc appuyer ces forces armées nationales et appuyer aussi la force conjointe que les pays du G5 Sahel ont décidé de constituer, c'est-à-dire à partir d'éléments qui proviennent de leurs forces armées nationales, constituer une force qui a la capacité d'évoluer par-delà les frontières de ces 5 pays, parce qu'évidemment, les djihadistes et les terroristes ignorent tout à fait les frontières.
Et c'est un territoire gigantesque.
Vous ne répondez pas à la question d'Ali Badou. En fait, la question, c'est est-ce que vous avez un calendrier? Combien de temps tout cela prend?
Parce que tout prend du temps. La force commune, elle prend énormément de temps. Donc, est-ce qu'on n'est pas condamné à rester très très longtemps?
Je ne le crois pas, mais c'est une action en effet qui ne s'inscrit pas dans le court terme. Cela fait déjà quelques temps que Barkhane a pris la succession de l'opération Serval, mais moi ce que je note, c'est que les progrès sont considérables dans la capacité que ces forces armées ont à maintenant, de plus en plus, prendre en charge leur propre sécurité. Alors, c'est pas idéal, c'est loin de moi l'idée de dire que c'est idéal. Mais nous avons, y compris avec un pays tel que le Burkina Faso, qui devient aujourd'hui un pays dans lequel un certain nombre d'attaques terroristes ont eu lieu, nous avons encore récemment conclu un accord avec le Burkina Faso permettant à la force Barkhane, si le Burkina Faso en fait la demande, d'intervenir. Et nous avons été amenés, en effet, à intervenir à plusieurs reprises en appui des armées burkinabées. Donc nous travaillons beaucoup avec les forces armées maliennes, nous travaillons beaucoup avec les forces armées du Niger, et nous avons été amenés, grâce à la conclusion de cet accord, à le faire pour le Burkina Faso. Mais vous avez raison, l'objectif, c'est que cette force conjointe soit pleinement opérationnelle. Et d'ailleurs, en ce moment même, après plusieurs mois d'arrêt des opérations, la force conjointe est en train de reprendre ses opérations.
Karine Bécart, puis Nathalie Sinclair.
Alors, il y a un sujet tout à fait fascinant qu'on a un peu découvert en cette fin de semaine, c'est la cyberdéfense. La France a décidé d'investir largement ce secteur-là. De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit d'une force d'attaque ? Est-ce qu'on va attaquer sur le cyberespace ? Ou est-ce que c'est une force de dissuasion ? C'est avoir des moyens pour faire peur.
Florence Parly.
Alors, j'ose pas dire les deux.
Les deux, mon général ? Mais si, allez-y.
Je voudrais simplement, d'un mot, dire que nous sommes confrontés à de nouvelles formes de menaces. Et étant confronté à de nouvelles formes de menaces qui s'expriment dans de nouveaux milieux, l'espace par exemple, jusqu'à présent...
Essayez de donner des exemples concrets.
Je vais donner un exemple. L'espace était considéré comme un milieu, un environnement dans lequel on pouvait installer des satellites pour faire des télécommunications, on pouvait observer la Terre, en tirer toutes sortes d'informations utiles, soit pour l'environnement, également utiles pour les armées, bien sûr. Mais c'était un espace, si je puis dire, dans lequel il n'y avait pas de confrontation de puissance à puissance. Et ce que nous avons constaté, encore récemment, c'est que, petit à petit, l'espace, le monde spatial, devient un lieu de confrontation. Des satellites s'approchent d'autres satellites, pas n'importe lesquels. Ils viennent sans doute tenter d'absorber des données, des informations, voir le cas échéant.
Quels sont les pays qui essaient
de... J'ai cité un exemple, donc je peux le citer de nouveau. Au cas particulier, l'événement que j'ai en tête, c'est un événement dans lequel un satellite russe s'est approché de l'un de nos satellites. Bien. Donc, aspiration de données...
D'un satellite militaire.
Donc, aspiration de données, éventuellement modifier l'inclinaison d'un miroir. Donc, on croit qu'on observe telle zone et puis finalement, on n'y voit plus rien. On voit autre chose à la place. Bref, tout ça est très concret.
Donc, les Russes sont dangereux, les Chinois sont dangereux,
les stratégies des grandes puissances
sont nos ennemis.
Sont de plus en plus, affirmées. Et la revue stratégique qui nous a permis de définir les grands axes de la loi de programmation militaire dont je parlais tout à l'heure en a fait la liste, et ceci en fait partie. Alors, le cyber, au fond, c'est la sécurité de nos systèmes d'information, de nos connexions, de nos données numériques. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des hackers. Il y a des hackers qui s'en prennent, si je puis dire, au monde civil, à nos boîtes mail, les miennes, les vôtres, qui s'en prennent éventuellement à un système qui permet à un hôpital de fonctionner, à un système qui permet à des trains, des systèmes de transport de fonctionner. Donc c'est, au fond, toute la vie de nos sociétés qui est maintenant très dépendante de ce qui se passe d'une part dans l'espace et de la sécurité de ces connexions.
Mais récemment, la cyberguerre a été déclarée puisque c'est l'armée française et en l'occurrence la chaîne d'alimentation en carburant de la marine française qui a été attaquée.
Exactement. Et ça s'est passé tout récemment au ministère des Armées. Donc notre système de communication interne a été attaqué, piégé. Et si nous n'y avions pas paré, parce que nous avons pu finalement y parer, eh bien c'est en effet l'approvisionnement en carburant de la marine qui aurait été mis en cause.
Donc, Il a été attaqué par un groupe de hackers russes. Est-ce que vous le confirmez, le groupe Turla?
La traçabilité et l'identification des auteurs est extrêmement difficile. C'est difficile d'attribuer. Donc il est très important de pouvoir d'abord se protéger.
Mais vous ne savez pas si ce sont des hackers russes?
Certains en attribuent l'origine à un dispositif un mode opératoire qui s'appelle Turla. Et moi, je n'ai rien à dire dans ce domaine parce que je ne peux pas formellement le garantir.
Donc, on ne pourra jamais attaquer.
Néanmoins,
si c'est difficile de savoir.
Je reviens à mon point. Il faut d'une part pouvoir se défendre, se protéger, protéger nos systèmes de communication et d'observation.
Ça, on l'a entendu.
Ça, c'est vrai.
Mais attaquer. Tous ceux qui ont vu la série Le Bureau des légendes savent que la France avait une stratégie de défense en matière de cyberguerre. Est-ce qu'on a changé de stratégie, Florence Parly? Est-ce que maintenant la France va devenir offensive?
On y ajoute la dimension offensive. Je veux simplement d'un mot.
Le Bureau des légendes avait tout vu.
Sur la protection, parce que ça me paraît important que les Français réalisent qu'aujourd'hui, nos armées, sur le terrain, ne peuvent pas opérer sans des satellites et sans de la transmission de données. Le combat est d'ores et déjà connecté. Donc, protéger ces données, c'est essentiel. Mais par ailleurs, nous pouvons subir des attaques qui sont des attaques qui utilisent l'arme cyber et donc pouvoir désamorcer ces attaques, c'est important. Je prends un exemple, un engin explosif improvisé déposé subrepticement sur une piste dans le Sahel, dans l'attente qu'un convoi de militaires passe dessus et explose. Ça se déclenche souvent avec des smartphones. Pouvoir neutraliser par anticipation ce smartphone pour empêcher l'enclenchement de cet engin explosif, voilà une manière d'illustrer ce que peut être cette dimension offensive du cyber. Et il y a mille autres exemples, puisque au fond, le chef d'état-major des armées a été amené à le décrire de façon très précise la semaine dernière. Le cyber, c'est aussi une arme, au même titre que les autres, qui va permettre également d'amplifier les effets des armes conventionnelles que nous avons
donc dans l'armée de l'air. Donc vous allez recruter des hackers et en faire des soldats.
Et je vous remercie de cette mention. Oui, la raison pour laquelle
vous allez recruter des hackers.
Nous allons recruter des experts, des techniciens,
oui,
des informaticiens.
On appelle ça des hackers, Florence Parly.
Qui sont vraiment des talents des et des compétences dont nos armées ont besoin. Et d'ailleurs, il y a un forum international de la cyberdéfense qui se déroulera la semaine prochaine à Lille. Et nous lançons une campagne de recrutement, en effet, pour pouvoir disposer de ces compétences.
Il nous reste quelques minutes, on va avancer
et
poser
des
questions.
Juste, vous n'avez pas répondu à la question. Les Russes font probablement partie de nos ennemis dans le cyberespace. Quels sont nos autres ennemis? Est-ce que tout pays potentiellement en sont ou effectivement des alliés?
Pourquoi nous avons voulu afficher une doctrine? Pourquoi nous avons voulu le dire? Nous avons voulu le dire d'abord parce que il faut acculturer nos militaires, mais surtout parce que nous voulions que nos partenaires, nos alliés, sachent que non seulement nous disposions de cette arme, mais que nous avions l'intention de l'utiliser, mais aussi, et peut-être pas totalement accessoirement, pour ceux qui pourraient vouloir nous menacer.
Les Américains, par exemple. On va maintenant passer à un autre sujet pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de dossiers à aborder avec vous, Florence Parly, mais la Syrie est un dossier crucial, déterminant. On a vu que le retrait américain allait se poursuivre malgré l'attentat récent contre ses soldats. 19 décembre dernier, Donald Trump disait dans un tweet qu'il avait vaincu l'État islamique en Syrie. Est-ce que, et c'était le sens d'un édito dans le journal Le Monde, ce n'est pas un coup de poignard dans le dos des Kurdes que nous vivons aujourd'hui? Comment les protéger, ces Kurdes qui ont été les meilleurs alliés de la coalition internationale en Syrie, qui luttent encore d'ailleurs tous les jours contre les djihadistes, qui ont été maintenant lâchés par les Américains? Que leur dites-vous?
Vous avez raison, les Kurdes ont été les meilleurs partenaires de la coalition, puisque c'est eux qui, au sol, ont accompagné les interventions de la coalition. Vous savez que la France intervient dans cette coalition avec des avions de chasse et de l'artillerie. Donc, la décision prise par le président Trump a été pour nous une forme de surprise.
De trahison?
Parce que notre priorité, la priorité de la coalition, c'est d'aller au bout de ce combat contre Daesh.
Donc c'est une trahison.
Notre analyse, c'est que ce combat n'est pas terminé. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il se poursuit, et il se poursuit extrêmement activement. Vous rappeliez tout à l'heure que j'étais présente aux côtés des troupes en Jordanie pour le premier de l'an. Eh bien, le 31 décembre, la chasse française a décollé de Jordanie pour aller frapper des objectifs au-dessus de la moyenne vallée de l'Euphrate. Le 1er janvier, elle a fait de même, et nous voyons jour après jour que les forces démocratiques, les FDS, qui sont donc constituées de Kurdes et de forces arabes syriennes, progressent au sol kilomètre après kilomètre dans cette moyenne vallée de l'Euphrate. Les villages sont reconquis les uns après les autres, mais nous voyons aussi, et le tragique attentat de Manbij dans le nord-est de la Syrie ces derniers jours nous le rappelle, Daesh n'est pas vaincu, et donc il faut terminer ce travail. C'est la priorité.
On va rester tout seul.
Alors,
qu'a fait la France, qu'avons-nous fait aux côtés d'ailleurs de nos partenaires de la coalition? Nous avons, je crois, passé beaucoup de temps au contact de nos partenaires américains.
Ne faites pas le bilan, parlons de l'avenir, Florence.
Parlons de l'avenir,
les Kurdes.
L'avenir, c'est que, en effet, le retrait américain ne se passe pas comme ça, de façon brutale, du jour au lendemain.
Et
je crois que nous avons plutôt, si l'on en croit toutes les déclarations récentes faites par les États-Unis, nous sommes en train de nous réorienter vers un retrait progressif et très coordonné. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle si les choses se poursuivent ainsi. Et la deuxième chose que nous avons fait vis-à-vis de nos partenaires américains, c'est de leur faire prendre en compte la nécessité de donner des garanties de sécurité aux Kurdes. Et c'est de cela dont nous sommes en train de parler, et c'est à cela que les Américains,
je crois, travaillent. Et vous êtes optimiste là-dessus?
Je vois qu'il y a aussi des options qui sont, je ne sais pas si elles seront retenues, mais qui sont évoquées. Certains évoquent la création d'une zone tampon au nord-est de la Syrie. Bref, je ne sais pas si c'est in fine cela qui sera mis en œuvre, mais en tout cas...
Les Turcs n'en veulent pas, en l'occurrence, ce serait l'embryon d'un État kurde.
C'est bien pour ça que je ne suis pas affirmative sur ce point-là, mais ce que je peux dire, c'est que cette question de la nécessaire protection des Kurdes est maintenant très clairement prise en compte par les alliés américains.
Mais qu'est-ce que vous faites si jamais il se passe des incidents et si au fond vous restez complètement impuissant et que les Kurdes sont attaqués? Qu'est-ce que vous faites?
Florence Parly.
Nous sommes partenaires d'une coalition. Nous restons partenaires de cette coalition. Cette coalition ne quittera pas le Levant. Elle restera en Irak, ça c'est aussi un point très important.
Mais que peut-elle, cette coalition, quand son élément le plus important, les États-Unis, se retire, Florence Parly?
Comme je vous l'ai dit, cette coalition continuera d'intervenir.
Mais sans les États-Unis.
À ma connaissance, les Américains n'ont jamais dit qu'ils se retireraient d'Irak. Ils ont dit qu'ils se retireraient de Syrie. Et ce n'est pas la même chose, parce que comme vous le savez, une part très importante des forces de cette coalition, l'essentiel même, se trouve en Irak, ce qui permet de faire plusieurs choses. D'abord, d'appuyer la formation des forces armées irakiennes, qui elles-mêmes luttent contre le terrorisme, et permettre éventuellement de réintervenir en Syrie, mais sous certaines conditions.
On parlait surtout des Kurdes syriens, et notamment de l'YPG, qui redoute un nettoyage ethnique. On va encore passer à un autre sujet, parce que c'est une question qui était cruciale sous la présidence de François Hollande. On a découvert que François Hollande avait autorisé, il l'avait dit à des journalistes d'Ave et l'Homme, pour ne pas les nommer, des opérations homo, c'est-à-dire des assassinats ciblés, autorisés par le président de la République. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui?
Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet. Aucun.
Aucun.
D'ailleurs, je crois que certains ont dit que ce n'était pas des choses dont on parlait.
Comment ça?
Qui dit ça?
Non, expliquez-nous.
Je crois que c'est le titre d'un livre.
Un président ne devrait pas dire ça. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'une société démocratique ne doit pas en parler, pour le coup? Ne doit pas t'en parler?
Il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas tout. Je ne donne pas un certain nombre de renseignements, parce que ces renseignements sont cruciaux pour la sécurité d'un certain nombre de personnes qui agissent pour la sécurité de notre pays.
Bien sûr. Voilà. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a des commissions au Sénat travaillent en transparence.
Mais
est-ce qu'en France, c'est le cas?
Nous avons des échanges naturellement avec les parlementaires, mais
les parlementaires ne sont pas prévenus des assassinats ciblés, Florence Parly.
ne parle pas de ça. Encore. Je parle du renseignement en général. Je parle du renseignement en général, mais vous conviendrez que ce sont des questions qui méritent d'être traitées dans un cadre où les personnes sont habilitées.
Je voudrais juste savoir, Nathalie, revenir sur le bilan que vous faites du rapatriement des enfants qui étaient en zone irako-syrienne, enfants de djihadistes ou petits-enfants. Enfin, petits-enfants. C'est plutôt les grands-parents qui les demandent. On en est où? Est-ce que la philosophie est toujours la même? Et à peu près combien d'enfants ont été rapatriés?
La philosophie n'a pas changé. Les enfants ont vocation à être rapatriés pour qu'ils puissent l'être lorsqu'ils ont encore des parents qui sont sur le théâtre du Levant. Il faut que les mères soient d'accord et donnent leur autorisation.
C'est moins de 7 ans, moins de 6 ans?
C'est autour, je crois, de mon... Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère ne pas répondre à cette question, mais les mères doivent donner leur autorisation. D'accord. Et un certain nombre d'enfants ont regagné le territoire national. Très probablement, un certain nombre d'autres continueront de le faire. Et l'État s'organise pour en assurer la prise en charge à leur arrivée en France.
Une autre question qui va vous agacer, Florence Parly. Faut-il cesser de vendre des armes à l'Arabie Saoudite?
C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais auquel j'ai plaisir à nouveau à répondre.
Non, vous êtes toujours agacé quand on vous pose la question, mais c'est une question légitime. Si des armes françaises sont utilisées contre des civils dans la guerre au Yémen, c'est une question légitime.
Et je comprends parfaitement que nos concitoyens puissent se poser des questions autour des exportations d'armement. Parce que d'abord, c'est un sujet qui est assez complexe, mais je voudrais redire une première chose, c'est que c'est un processus qui est extrêmement encadré. Et je voudrais rappeler aussi quelque chose qu'on a trop tendance à oublier, c'est que le principe, s'agissant des armes, qui ne sont pas une marchandise comme une autre, c'est que leur exportation est interdite, sauf autorisation express. Donc on est dans un processus où l'autorisation est l'exception. Ce qui veut dire que lorsqu'une autorisation est accordée, ceci est passé par le filtre d'une procédure extrêmement exigeante et qui est, je crois, dans notre pays parmi les plus exigeantes.
Donc vous savez, vous pouvez nous dire, Florence Parly, si des armes françaises ont été utilisées contre des civils au Yémen, si le processus est très exigeant.
Ce que je peux vous dire, Ali Badou, c'est que nous n'avons récemment vendu aucune arme qui puisse être utilisée dans le cadre du conflit yéménite. Ce que je dois vous dire, cependant, c'est que des armes françaises peuvent être présentes sur ce terrain parce qu'elles ont été vendues il y a plus de 20 ans de cela. Donc je crois qu'il faut être parfaitement complet. Donc à ma connaissance, et je tiens à terminer sur ce sujet, je n'ai pas connaissance du fait que des armes soient utilisées directement dans ce conflit. Il y a un certain nombre d'armes qui sont des armes de protection. À ma connaissance...
Vous êtes agacé.
À ma connaissance, c'est que je n'ai pas connaissance. Les mots ont un sens. Oui. À ma connaissance, il y a un certain nombre d'équipements militaires qui ont été vendus pour assurer la protection, notamment du territoire saoudien, contre des attaques balistiques qui viennent du territoire yéménite. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Et là, au fond, le seul point qui est véritablement important à l'heure actuelle, c'est que cette guerre cesse, je l'ai dit à plusieurs reprises, et de ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans l'actualité internationale en ce moment, mais en ce moment, on ne peut que se féliciter du fait que depuis le début du mois de décembre, un processus de dialogue ait été enclenché sous l'égide de l'ONU, d'abord en Suède, il s'est poursuivi encore la semaine dernière, en Jordanie, et qui permet, pour l'instant, globalement, de faire tenir un cessez-le-feu autour du port d'Odeida, ce qui est extrêmement important parce que c'est la condition pour que l'aide humanitaire puisse arriver aux populations. Enfin. Et donc, il faut absolument qu'une solution politique soit trouvée. Et pour l'instant, je dois dire que les choses sont plutôt orientées dans le bon sens. Mais nous n'en sommes pas encore aux résultats attendus.
Et nous avions encore tant de questions à vous poser, Florence Parly. Finalement, une heure, ça passe vite. Vous voyez, il est malheureusement temps de se quitter. Bon dimanche, Madame la Ministre.
Merci
à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Merci à toutes les trois et à dimanche prochain.